Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures d'infos et de bonne humeur que je présente désormais à la romaine. C'est-à-dire allongé négligemment dans mon canapé avec en guise de technicien mon chat Miam Miam. Qui a la fâcheuse tendance de mordiller le câble Ethernet et les fils électriques qui pourraient un jour lui jouer des tours. Oui, attention, nous sommes le jeudi 26 mars 2020, 10e jour du confinement, et je suis en mesure de rassurer mes fans. Hier, suite à une légère poussée de fièvre, j'ai été amené à consulter. On m'a fait passer un scanner et le médecin et l'interne n'avaient pas l'air trop inquiets.
Ça n'a pas l'air trop grave, apparemment le cerveau n'est pas lésé.
Je pourrais être méchant, mais il n'y avait pas grand-chose à léser.
C'est donc à 100% de mes capacités, quelles qu'elles soient, que je m'apprête à vous présenter cette 10e édition confinée de l'équipée sauvage. En duplex avec nous en studio à Paris, celle qui, au lieu de faire de la radio, devrait être à l'Institut Pasteur pour que les scientifiques isolent le gène de la résistance à toutes les pathologies, le gène ROC. C'est simple, 8 ans qu'on bosse ensemble, jamais un congé maladie de déposé, jamais le moindre petit rhume. Vous êtes en titane, Eva ?
Il paraît, ouais, je sais pas, mais enfin je m'appelle ROC en même temps, hein. Vous savez, les noms de famille, je pense que ça conditionne quand même. Hein. Exactement. Mais quand vous dites à la romaine, parce que moi à la romaine, j'imagine, voilà, vous êtes allongé, vous êtes pas très habillé en fait.
Mais ça, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Je laisse nos auditeurs et nos auditrices surtout s'imaginer ce qu'ils veulent. Indestructible aussi, Eva, et votre passion pour les écrans, passion qui nous sauve la mise en ce moment, alors qu'il faut bien occuper les enfants pendant qu'on télétravaille. Vous nous avez encore concocté un programme digne des meilleurs anesthésistes de cochins. Allez, les gosses vont pas bouger pendant moins 2 heures.
On va essayer pour que vous ayez un peu la tranquillité pendant un moment pour pouvoir travailler ou ne serait-ce que vous reposer aussi.
Chaque jour, à défaut de pouvoir accueillir un invité, on prend désormais des nouvelles d'une personnalité par téléphone. Aujourd'hui, un navigateur qui occupe une place très importante dans le cœur d'Eva. Dès leur première rencontre, elle l'a surnommé son petit bonhomme.
Arrêtez.
Très vite, elle est même devenue jalouse, voire possessive. La dernière fois, elle lui a quand même reproché d'être partie trop longtemps en mer.
Vous avez passé 3 jours allongé sur une plage à boire du rhum.
Mais non, il n'a pas bu du rhum, il a fait la route du rhum. Et ben, ça n'a rien à voir. Bonjour François Gabart.
Bonjour.
Vous êtes un de nos plus grands navigateurs. On a eu la chance de vous recevoir plusieurs fois, notamment novembre dernier, alors que vous preniez le départ de la Transat Brest-Atlantique. Alors, vivre seul, bloqué dans un petit espace pendant des semaines, ça vous connaît un peu. J'imagine donc que niveau psychologique, en tout cas, vous gérez bien le confinement.
Je sais pas, oui, ça se passe plutôt bien. Après, c'est assez différent quand même ce que je suis en train de vivre en ce moment, ce dont j'ai l'habitude de vivre, à savoir que je suis dans une maison, en famille, avec mes enfants, ma femme, à essayer tant bien que mal de télétravailler, et ce qui, ouais, c'est différent de mon métier de marin quand je suis tout seul ou en équipage sur un bateau.
Vous nous raconterez votre confinement, et puis vous allez peut-être nous donner quand même des petits trucs, des petits conseils pour qu'on apprenne à gérer cette situation pour nous si déstabilisante d'être comme ça un peu coupé du monde. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour, chacun en duplex de son domicile évidemment. Le premier est un compétiteur comme vous, François. Même abnégation, même rage de vaincre, seuls vos palmarès vous distinguent. Lui n'a gagné ni le Vendée Globe, ni la Transat Jacques Vabre, ni la Route du Rhum, ni évidemment battu le record du monde en solitaire, mais une fois, hier, il a remporté la victoire dans l'équipée sauvage. Et visiblement pour lui, c'est comme s'il avait gagné le Vendée Globe.
Allez! Oh là 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 là! Allez!
Bonjour Mathieu Charrier!
Bonjour à tous!
On va parler longtemps de cette victoire, je pense.
Oh mon Dieu.
Non mais c'est pas une victoire, c'est un grand chelem surtout.
Ouais. C'était un grand chelem, c'est vrai.
Est-ce que c'est pas inédit dans l'histoire
non. Non, calme-toi mon coco, c'est pas inédit. Alors donc hier, vous avez gagné avec votre sujet sur Uderzo. Et quel sujet comptez-vous remettre ça cet après-midi?
Je vais vous parler, vous savez, il y a en ce moment tous les mercredis, une quinzaine de films qui devaient sortir en salle, sauf que les cinémas sont fermés, et donc comment ça va se passer une fois qu'ils vont rouvrir? Et ben, je peux vous dire que c'est un joli bazar, je passais pas mal de coups de fil, et ça va être embouteillage dans les salles de cinéma.
Votre rival, Mathieu Charrier, est redoutable car tout le monde l'aime. Elle est la bonté faite femme. Le Vatican bosserait d'ailleurs sur un projet de canonisation. Elle a même battu hier le record du monde de focuterie parentale en réussissant à garder son sang-froid devant l'immonde pendentif en pâte à sel que lui avait confectionné sa petite dernière, parvenant même à s'exclamer
« Et c'est super joli !»
Sainte Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Vous êtes la spécialiste environnement d'Europe 1. Et même face au coronavirus, Anne, vous réussissez à voir le bon côté des choses. Vous nous parlez aujourd'hui de ces zones du globe où la nature et la faune ont repris leurs droits.
Mais voilà, alors que les voitures ne roulent presque plus, que les avions sont cloués au sol, que les usines tournent au ralenti, je vais vous parler de cette nature qui reprend ses droits, puisque dans beaucoup d'endroits du monde, les animaux sauvages reprennent un peu du poil de la bête, comme on dit, et parfois de façon étonnante.
Oula, 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 premier jeu de mots,
début d'une longue série connaissant Anne Le Gall. Merci Anne, le programme est donné, comme on dit dans la marine lorsqu'on est prêt à appareiller.
Arrêt à l'abordage, souquez les Artémus.
Ah bon, l'équipée sauvage peut démarrer.
Parentin, l'équipée sauvage.
Chaque après-midi, vous le savez désormais, on prend des nouvelles d'une personnalité pour savoir comment elle vit son confinement. Aujourd'hui, s'il y a une personne que ça ne doit pas stresser de se retrouver bloqué au même endroit pendant 6 semaines, c'est François Gabart. Est-ce qu'on se trompe, François, justement, en vous imaginant forcément serein, rompu à tout, ou bien même un grand navigateur comme vous, un grand aventurier au long cours, peut se retrouver angoissé par une situation comme celle que toute la France est en train de vivre en ce moment?
Angoissé, non, je ne suis pas angoissé. Après, c'est quand même assez différent. Parce que tout simplement, quand je pars en mer d'habitude, c'est une situation préparée, puis assez normale. Mmh. Alors que là, on est en train de vivre quand même une crise. Il y a des gens qui meurent, des gens qui sont malades. Donc c'est forcément pas loin d'être réjouissant, au contraire d'une course à la voile ou d'un record à la voile. Donc forcément, c'est pas drôle. En revanche, est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter plus que ce qu'il ne faudrait? Ou mal vivre son confinement, je m'oppose à ça, on va essayer de bien vivre tout ça, parce que a priori, ça sert à rien de mal le vivre. Si on peut choisir de bien le vivre, tout simplement.
Et puis surtout, c'est que vous avez gagné quelques mètres carrés, parce que combien il fait votre bateau en termes de mètres carrés quand vous êtes en confinement sur la mer?
C'est vrai que c'est pas génial. Le bateau, on est un petit peu serré. Alors que là, en effet, en plus, moi j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc j'ai un petit jardin, on peut courir un peu dehors. Donc c'est vrai que c'est quand même plus facile, on a plus de place que sur un bateau. En revanche, quelque chose d'assez génial sur un bateau, c'est qu'on a la mer, a le bateau qui bouge, donc on a quand même cette impression de se déplacer sur le monde, ce qui met une dynamique même mentale. Hein. Quand on bouge, c'est même quand on est confiné dans un train ou dans un avion, on bouge, on se déplace, c'est quand même vachement plus positif que si on est confiné dans quelque chose qui bouge pas. Et c'est vrai qu'une maison qui bouge pas pendant 4-5 semaines, pour moi, c'est un petit peu la bougeotte. C'est vrai que ça, c'est un peu différent, quoi.
Et justement, François, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Alors, vous dites que vous essayez de télétravailler. J'ai bien noté le verbe essayer.
Bah oui, j'essaye parce que donc je suis en famille. J'ai des enfants, dont des enfants plutôt en jeune âge. Donc, faut un peu les occuper. Donc on fait des relais avec ma femme et on essaie de faire du mieux possible. Dans le mieux du mieux, on travaille à mi-temps, ce qui nous permet quand même d'avancer, ce qui nous permet de faire pas mal de choses. Il faut bien comprendre que le métier de marin, ça se passe sur l'eau, mais ça se passe aussi à terre. On est en train de construire un bateau en ce moment, donc il y a quand même pas mal de choses à essayer de manager un peu. Alors forcément à distance, mais c'est pas facile, mais voilà, ça nous permet de travailler, d'avancer.
François Gabart, le navigateur et le père de famille, est avec nous cet après-midi. Ensemble, on continue d'évoquer le confinement et de célébrer la mer. Or, comme Cadmerade disait...
La mer est une tulipe éclose qui regarde en son sein ses marins volontaires, galvaudent un peu plus. Léon Blum.
Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
C'est un des effets inattendus du confinement de près de 3 milliards de terriens actuellement. La nature et les animaux reprennent leurs droits dans certaines zones du globe. Dans un instant, nous partons en voyage avec Anne Le Gall dans ces territoires où la nature reprend ses droits. Un voyage très similaire à celui que vivra dans quelques semaines Chantal, l'esthéticienne.
Oh non, arrêtez!
C'est sous ce toit de verdure que s'accomplit le miracle de cette nature opulente. Des milliers d'espèces, la plupart minuscules, jouent un concert dont elles seules connaissent la partition.
Et oui, rendez-vous est pris pour le 7 mai
vous
avec Chantal
vraiment,
et Eva.
Mais vraiment, vous êtes vraiment trop con. Il n'y a pas d'autre
mot. Quand la nature reprend ses droits, j'ai pas raison, c'est juste après Madness.
Non, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Hein. Allez.
Nightboat to Chaos sur Europe 1. Lightboat to Cairo, c'était Madness sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Déstresser les confinés, voilà la nouvelle mission de l'équipe est sauvage. 2 heures de découverte pour vous changer les idées et de conseils pour égayer vos journées. Et en cette période anxiogène, on a besoin de professionnels du rire. C'est pourquoi j'appelle maintenant au micro notre première concurrente, le phénomène de l'humour vert, le chaînon manquant entre Greta Thunberg et Blanche Gardin, une journaliste qui va même jusqu'à insérer des gags dans ses chroniques sur l'environnement.
Lequel est un vrai pivert ? Celui-ci ? Ou alors celui-ci ?
Son nouveau slogan, Le Gall, le goût de la déconne. Anne Le Gall, pas de thème tabou avec vous. Même le coronavirus vous fait rire quand il permet à la nature de reprendre ses droits.
Exactement. Nous avons en ce moment un tiers de l'humanité confinée chez elle. L'activité économique tourne au ralenti. Et on a déjà des effets visibles de ce confinement sur la nature. Vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux ces photos de Venise qui a retrouvé ses eaux limpides, ses cygnes, ses cormorants. Bon, tout ça sans les bateaux de touristes qui remuent sans arrêt la vase dans les canaux. Et vous avez peut-être aussi entendu le reportage de notre correspondante à Marseille, Nathalie Chevance, qui expliquait que dans le parc des Calanques, les agents chargés de patrouiller dans la zone observent ces derniers jours des dauphins, des thons, des footbassans, des hérons, tout ça en nombre inhabituel. Dans le port de Cagliari en Sardaigne, les habitants ont aussi salué le retour des dauphins. Et puis, sur nos routes, mine de rien, les hérissons et les crapauds sont beaucoup moins victimes des voitures.
Ils peuvent traverser tranquille, les
hérissons. Ils peuvent y aller tranquille, ouais.
Et pourtant, il faut quand même savoir que près de 2 millions de batraciens et de hérissons sont écrasés tous les ans sur la route. Alors, on va pas être naïf, hein. Parfois, ce retour de la faune sauvage pose aussi des problèmes. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, mais en Thaïlande, il y a des dizaines de singes.
Les singes, ah oui, tout à fait, ouais.
Voilà, des macaques qui avaient l'habitude d'être nourris par les touristes qui ont envahi la ville de Lopburi en étant très agressifs envers les habitants parce qu'ils réclament la nourriture. Au Japon, c'est un petit peu le même phénomène qui se produit avec 1 millier de cerfs qui ont envahi la ville de Nara, c'est pas loin de Kyoto. Là encore, il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Voilà, ces cerfs cherchent encore de la nourriture en ville. Et en tout cas, ce qui est très impressionnant en ce moment, c'est la rapidité avec laquelle les animaux réinvestissent l'espace.
Et vous savez, il y a Henri de Laguérie, pardon de vous couper, Anne, en Espagne, qui a posté une vidéo, notamment sur Twitter, où des sangliers sont apparus dans les centres-villes de l'Espagne.
Ah mais absolument, et j'ai vu aussi une Parisienne qui avait posté la photo d'un écureuil qui s'est installé, enfin qui est passé sur son balcon.
Ah, ça c'est plus sympa qu'un sanglier.
Moi je le dis à nos amis animaux, je le dis, j'accueille les écureuils sur mon balcon, en revanche les sangliers ne sont pas les bienvenus.
Voilà, ça
clairement, ils seront dégommés à la carabine. Alors, la question qu'on se pose, Anne, c'est est-ce que les effets seront durables ?
Voilà, effectivement, c'est toute l'interrogation, parce qu'on sait que quand l'homme est absent longtemps, il y a une sorte de résilience de la vie sauvage. C'est le principe des parcs naturels, d'ailleurs, des sanctuaires marins protégés. C'est aussi ce qui s'est passé quand l'homme a déserté de façon accidentelle la zone de Tchernobyl. C'est aussi ce qui s'est passé dans la zone frontière entre les deux Corées. Vous savez, cette zone démilitarisée de 240 km de long et de 4 km de large est inhabité par l'homme depuis 1953 et du coup c'est devenu un sanctuaire sauvage qui abriterait près de 90 espèces en voie de disparition.
Ah oui,
ça c'est une bonne phrase que je pourrais isoler pour un prochain lancement d'Eva sur son esthéticienne.
De quoi ? Le sanctuaire sauvage ?
Ce qui vient d'être dit, c'était pas mal.
N'importe quoi.
Je ne cautionne pas Mathieu, je ne cautionne pas.
Merci Anne.
Alors c'est vrai que la grande différence avec la situation actuelle, c'est que le confinement, lui, ne va pas durer très longtemps, a priori. Normalement, l'activité économique et heureusement, reprendra son cours l'été prochain. Donc l'effet sur la reproduction des animaux risque d'être très limité. Mais on peut quand même espérer que cet épisode de confinement et tous les résultats réjouissants que l'on fait sur la régénération de la nature, on peut espérer que ça nous invitera au moins à nous poser la question de notre rapport au monde sauvage.
Clairement.
Parce qu'il ne faut pas croire que la nature peut comme ça se régénérer à l'infini. On voit avec l'effondrement de populations de certains animaux qu'à partir d'un certain point, on ne peut pas revenir en arrière. On sait qu'il y a entre 500 et 1 million d'espèces qui sont en voie d'extinction aujourd'hui dans le monde. Donc, il faut s'en souvenir. Et pour finir, je précise qu'il y a quand même peut-être une mesure que cette crise va apporter de façon durable. C'est que la Chine a interdit la vente et la consommation d'animaux sauvages, notamment la vente sur les marchés de pangolins. Vous savez, c'est l'animal par qui on pense que le virus a été transmis à l'homme. Les défenseurs des animaux donc, se sont largement réjouis de cette interdiction et ils espèrent que cette fois, le commerce d'animaux sauvages va définitivement s'arrêter en Asie. Ça avait été le cas au moment du SRAS au début des années 2000, mais l'interdiction avait été, n'avait pas perduré dans le temps. Donc on espère que cette fois-ci, ce sera durable.
Merci beaucoup Anne Le Gall pour ce très beau sujet. Charrier, la chronique d'Anne a eu l'air de vous intéresser. Vous l'avez trouvé bien ?
Oui, puis non.
Ah ben d'accord.
Merci quand même.
Europe 1.
Solitude, sentiment d'être minuscule, l'océan a tant à nous apprendre. Il a inspiré les plus grands.
Au fond des océans, il y a des gens. Au fond des océans, il y a des poissons. Au fond des océans, il y a peut-être moi. Albert Camus.
N'importe quoi.
En ces temps où la moitié de l'humanité n'a plus le droit de sortir de chez elle, qui de mieux qu'un grand marin pour nous parler du confinement ? François Gabart est en ligne avec nous cet après-midi. A tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h-18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Au 10e jour du confinement, les psychologues le disent, le plus important c'est le moral. C'est le moment, chers auditeurs, de se forger un moral d'acier. Or, pour nous apprendre à gérer le confinement, à surmonter le sentiment d'oppression qu'on peut ressentir dans un espace clos, on a décidé de faire appel à l'expertise d'un marin. Bon, évidemment, Mathieu Charrier en est un. C'est vrai que l'été, il fait un peu de hobby 4 sur le bassin d'Arcachon. Mais bon, sachant que même dans la piscine à vagues de l'Aquaboulevard, il arrive à se faire peur.
Oh là 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 là. Pop, 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 pop. Oh là 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 là.
On a préféré passer un coup de fil à un vrai marin, à savoir François Gabart. Alors François, on s'en rend compte depuis quelques jours, on a parfois du mal à prendre nos marques et à trouver nos repères. Tout a changé avec ce télétravail. Il y a la classe à la maison, les repas à préparer, la vie quotidienne. Pendant vos courses en mer, est-ce que vous instaurez des rituels immuables pour rythmer les journées qui fatalement doivent se ressembler ?
Oui, évidemment, c'est vrai que c'est important de retrouver des nouvelles routines. Forcément, ça nous change tous un peu nos habitudes. Il faut en fait retrouver des nouveaux repères. Et c'est vrai que quand on a une habitude, on va au travail à telle heure, on dépose un enfant à l'école. On a dans la vie normale, on a des petites routines qui se mettent en place. Et là, faut trouver des nouvelles routines pour quelque part son petit côté, je pense, rassurant, puis ça nous permet de mieux se positionner dans le temps, dans l'espace par rapport à la journée qui passe. Au temps qui passe, j'en parle souvent, le temps passe différemment. Alors quand on est sur un bateau, c'est une évidence, que ce soit en course ou en croisière, le temps passe différemment. Je dis pas qu'il passe plus vite ou moins vite, juste le temps, on n'a pas le même relation avec le temps. Et là, moi, je ressens un peu la même chose avec ce confinement. Donc faut réapprivoiser un petit peu son rapport avec le temps. Et c'est important d'avoir quelques repères pour nous stabiliser un petit peu dans tout ça.
Et vous, votre truc aussi, quand vous êtes en mer, en course, enfin depuis que je vous connais, en tout cas, c'est le goût de la communication. Vous restez toujours en contact avec la Terre, évidemment, pour vous guider dans la course, mais aussi, par exemple, même avec nous. Un jour, vous m'avez même envoyé un message pour mon anniversaire. Donc, vous prenez toujours le temps d'être en contact avec la Terre ferme. C'est important de communiquer quand on est confiné aussi en ce moment. Il faut appeler ses amis, il faut fêter les anniversaires, il faut pas se replier sur soi.
Ah bah oui, c'est sûr. Alors des fois en bateau, on peut essayer de se déconnecter un petit peu pour se reconnecter avec d'autres choses. Et là, c'est pareil. Dans ce confinement, on peut aussi prendre le temps justement de parfois aller faire des choses qu'on ne faisait pas d'habitude. Mais si on a envie et si on ressent le besoin d'échanger avec d'autres, pourquoi pas même d'appeler des gens qu'on voit pas si souvent que ça ou qu'on appelle pas si souvent que ça. Bah faut en profiter. C'est vrai qu'on a quand même la chance, je pense à 98 ou 99% des Français qui sont confinés aujourd'hui ont un téléphone, Internet, ont la possibilité quand même d'échanger avec leurs amis. Et ça, c'est quand même une chance. Hein. Dans la difficulté du confinement, on a quand même la possibilité d'interagir avec un grand nombre de personnes. Et c'est une chance. Hein. On n'a pas forcément tout le temps cette possibilité-là. Donc autant en profiter quand on en a le besoin.
François Gabart, justement, grâce à Internet, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se sont mis à apprendre une langue étrangère. On a vu ça passer sur les réseaux où ils expliquent un peu le quotidien du confinement. Est-ce que vous avez décidé de prendre une nouvelle activité ou d'apprendre quelque chose que vous ne saviez pas jusqu'à présent ?
Alors pour le moment, non. On en parlait tout à l'heure. J'ai des jeunes enfants. Pour le moment, déjà, ça occupe quand même une bonne partie de la journée. Et au final, même si on ne bouge pas, le soir arrivant, on est à peu près aussi fatigué que dans une vie normale. Donc non, pour le moment, j'ai doux espoir. Je me suis mis quelques livres là de côté que je voulais lire. Je vais les lire, mais objectivement, depuis 10 jours, j'ai dû lire à peu près 10 pages, au grand maximum, à peu près une page par jour. Ça doit être le tarif, donc non, j'ai pas encore eu la chance de me de me projeter dans de nouvelles choses, mais le, je pense qu'il fallait un peu gérer la crise. Moi, j'ai une équipe à gérer. Il fallait tous s'adapter, donc ça demandait un peu de temps à nous tous. Peut-être que le confinement qui devrait durer, malheureusement, va permettre de retrouver donc cette nouvelle routine, de s'organiser un petit peu mieux, un petit peu différemment. Et j'espère, en effet, arriver à dégager un peu de temps. En tout cas, pour si c'est pas forcément pour apprendre une nouvelle langue ou faire des choses très différentes. En tout cas, de fait, et c'est déjà le cas aujourd'hui, exercer son activité d'une manière différente, la relation qu'on peut avoir avec ses proches qui se fait d'une manière différente. Donc on voit la vie sous un autre prisme. Et ça, ça reste quand même super enrichissant.
Vivre ensemble, confiné, vous l'avez vécu parce que vous avez fait des courses en solitaire, mais aussi des courses à plusieurs. Est-ce qu'il y a des techniques pour supporter les autres au bout d'un moment vous, non, mais parce que c'est vrai qu'il y a des gens.
On sent la question de.
Oui,
c'est la question importante pour vous. Hein,
alors, il faut savoir peut-être s'isoler par moment.
Sur le sujet, ouais, sans bateau, on peut jeter les gens à la mer. C'est
voilà,
quand même
c'est
relativement
ça.
Simple, efficace.
C'est vrai, ça va vite.
Donc là, j'ai essayé dans le jardin, mais ça revient à chaque fois. Donc non, j'ai pas trouvé de solution. Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que le vivre ensemble dans un espace confiné est quand même forcément assez particulier. C'est ce qu'on vit sur un bateau. Alors nous, en plus, moi, quand je fais de la course, on a quand même la pression, on a le résultat, on a le stress, de la fatigue. Enfin bon, bref, on a tout ça qui est exacerbé. Et du coup, là, les relations humaines sont, j'ai envie de dire, à haute intensité. Les émotions qu'on vit sont très fortes. Donc voilà. Il y a des interactions qui sont très fortes entre les personnes et c'est pas forcément facile à gérer parce qu'en effet, sur un bateau, ben on est confiné. Si on en a marre de son équipier, on peut pas ne pas le voir pendant quelques
mois. On peut pas lui faire la gueule.
Mais non,
on peut pas bouder.
Non, on a le droit de bouder. On peut bouder. Après, est-ce que ça fait avancer la problématique?
Ouais, c'est la cata.
Quoi. Oh. Et s'il y a bien un conseil à donner dans tout ça, c'est qu'il faut arriver à gérer ses émotions et à essayer de les partager, de les échanger. Quoi. C'est intéressant, même avec les enfants en ce moment. Enfin, c'est apprendre à discerner ses émotions et à les exprimer et à les partager avec les personnes autour de soi, c'est quelque chose que j'essaye dans la vie normale de faire avec mes enfants. Et là, même chez nous adultes, on essaye évidemment d'être encore un peu plus attentif à ça, à essayer de comprendre pourquoi parce qu'on a le droit en ce moment d'être inquiet, on a le droit d'avoir peur, c'est très légitime au vu de la situation. Et la meilleure façon de le vivre ensemble, alors il y a des gens qui sont seuls, isolés, donc dans leur confinement, et ils peuvent échanger avec l'extérieur. Dans la situation dans laquelle je suis, où je suis avec ma femme et mes enfants, et ben, si on est inquiet, il faut en parler, il faut essayer de l'échanger, parce que c'est en partageant, en exprimant tout ça, qu'on arrive à comprendre dans la situation dans laquelle est l'autre et essayer de avancer.
Je suis bien contente de ne pas être confinée avec Mathieu Noël, je vous le dis, François Gabart.
Oui, mais vous regrettez de ne pas être confinée avec François, en revanche. Ça, je le sens, Eva. Ça, c'est vrai.
N'importe
Merci
quoi.
Merci beaucoup, François Gabart, d'avoir été en ligne avec nous, d'avoir pris le temps cet après-midi pour l'équipée sauvage. Et à très bientôt, on l'espère, en studio, quand tout sera fini.
Merci beaucoup à vous.
Europe 1.
Il va venir défendre son titre en nous parlant du gigantesque embouteillage qui s'annonce dans le cinéma français lorsque nous sortirons du confinement. Mathieu Charrier peaufine sa chronique et Dieu sait que ce perfectionniste n'est pas là pour rigoler. C'est un vrai pro qui ne baisse jamais la garde et ne tolère aucune approximation, même lorsqu'on discute en antenne avant l'émission.
Allons-y.
Bisous, à tout de suite, c'est parti.
Non, pas bisous justement.
Non, pas bisous.
Oui, pas bisous. Si tu commences comme ça, on va pas y arriver.
Voilà. Autant pour moi. Mathieu Charrier arrive juste après. Mais oui, non, mais d'accord, vous avez raison sur le fond.
Enfin,
mais
bon,
moi,
voilà.
Je reste comme ça, je vous aime tellement. Je peux pas m'empêcher de vous embrasser virtuellement. Mathieu Charrier arrive juste après. Oshi, ta marinière sur Europe.
Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas. T'es haut, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous deux, c'est. c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant, viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je plonge mon séjour qui est à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Cherchons un marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne en air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
Ta marinière, c'était Oshi sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission Feel Good par excellence en ces temps tourmentés. Deux heures d'une joyeuse bataille opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui rivalisent d'inventivité pour vous proposer des activités originales, parfois un peu trop d'ailleurs.
Redécouvrir sa sexualité grâce au kung-fu.
Mais qu'est-ce que c'est?
Oui, voici notre deuxième journaliste en compétition aujourd'hui, le fantasque monsieur cinéma d'Europe 1, oui, Mathieu Charrier, fantasque mais chiant. Comme je le constate souvent à mes dépens, dès que j'ai le malheur de riper sur un mot. L'équipe est sauvage spéciale justice continue, car non seulement nul n'est censé ignorer la loi.
Nul n'est censé quoi ? La loi ?
Dire que je vous ai donné mon point hier, j'avais oublié vos mesquineries. Mathieu, aujourd'hui vous nous parlez d'un embouteillage qui s'annonce cet été et pas que sur la 4.
Oui, prenez les films qui auraient dû sortir hier par exemple, je vous en donne quelques-uns. Alors vous aviez La Daronne, tout de même, portée par Isabelle Huppert, Le Mulan, nouvelle version, par Disney, vous imaginez, Divorce Club aussi, nouveau film de Michael Youn, sacré au dernier festival de l'Alpe d'Huez. Donc tout ça c'était des films attendus et qui allaient attirer des millions de personnes en salle. Or évidemment, ils ont été repoussés, les cinémas étant fermés, et c'est là que le problème commence. Surtout si les salles restent fermées plusieurs semaines.
Et oui, mais alors comment ça va se passer ?
C'est une bonne question, Mathieu. Déjà, traditionnellement, c'est un peu la loi de la jungle, les sorties en salle. C'est-à-dire que vous avez les gros films qui décident de leur date de sortie, ceux qui vont attirer le plus de spectateurs en salle, et puis les autres qui essaient de se positionner quand il reste quelques écrans de libre. Sauf que là, quand les salles vont rouvrir, eh ben, il n'y aura plus ces quelques trous de libre. Septembre, octobre, tous les ans, il faut savoir que c'est full. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, vous avez des mercredis où sortent 20-25 films chaque semaine. Donc, et vous imaginez, impossible d'y repousser ceux qui ont dû annuler leur sortie. Ensuite, en novembre, est attendu un certain James Bond.
Ah bah lui, il va tout gagner.
Inutile,
encore.
Ouais. Voilà, inutile de vous dire que ça va tout écraser. Et puis en décembre, on passe, vous savez, aux films familiaux de Noël,
mais
dont
Disney,
les sorties sont
Pixar,
prévues.
Tout ça, ouais.
Exactement, dont les sorties sont prévues très très longtemps à l'avance. Donc il reste quoi pour récupérer et pour sortir les films qui devaient sortir, qui ont été repoussés ? Eh bien il reste cet été, où traditionnellement, il y a moins de sorties en salle. D'habitude, vous avez principalement des gros films américains.
Et donc là, les distributeurs, logiquement, se ruent sur l'été.
Ouais, ça commence. Alors, vous avez Le Pacte, par exemple, qui a distribué notamment Les Misérables. Ils ont effectivement reprogrammé leurs 6 films entre fin juin et fin août. Donc, vous avez le film de Mouloud Achour fin juin, vous avez le Pinocchio de Matteo Garonne début juillet, vous avez La Daronne, dont je parlais, portée par Isabelle Huppert, qui arrivera finalement mi-juillet. Alors, j'en ai discuté avec son directeur hier, Jean Labbadie, qui explique que l'été, pour lui, les gens vont au cinéma. Les salles sont climatisées et donc il fait ce pari-là. Il se dit pour une fois, voilà, il va y avoir plus de films, on tente le coup.
Pas sûr qu'ils aient envie d'être confinés quand même, les gens dans une salle. Mais enfin bon, passons, on ne sait jamais.
C'est toute la question de savoir justement, est-ce que les gens vont ressortir et vont avoir envie de retourner dans les restaurants, retourner au cinéma, dans les lieux entre guillemets de sociabilisation une fois que ce virus sera passé.
Mais en même temps, si on fait le calcul, il n'y aura pas non plus de place pour tout le monde cet été.
Et c'est là tout le problème. Et c'est pour ça que vous avez les plus petits distributeurs qui appellent à l'aide parce qu'eux, ils craignent de ne plus avoir de place du tout pour sortir leur film. Il faut savoir qu'en France, il y a un peu plus de 5000 salles de cinéma. Une fois que les sont pleines, vous pouvez plus sortir les autres. Et puis, l'été, vous savez, on est en vacances, nous, les médias. Donc, les petits films qui ont besoin de la presse, d'une vraie couverture médiatique, d'articles dans les journaux, de sujets à la télé, à la radio, l'été, ils la trouvent pas ou peu. Donc, il y aura que les gros films qui vont sans doute pouvoir s'en sortir parce que eux, ils ont les moyens d'acheter du marketing, d'acheter des culs de bus, d'acheter des colonnes Maurice un petit peu partout. Mais les autres, effectivement, ils ont peur.
Alors, question bête, Mathieu, mais pourquoi ils les sortent pas directement en VOD? Et voire déjà aujourd'hui, comme ça, on a que ça à faire de regarder des films.
Alors, il y a plusieurs problèmes. Déjà, beaucoup ne le souhaitent pas, parce que faut bien le dire, vous savez, c'est la phrase du dîner de con, le petit écran est pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est tout, il y a toujours un peu cette idée reçue dans la tête des cinéastes. Et puis surtout, il faut bien dire que les plus petits films dont on parlait, ils reçoivent des aides du CNC. Et ces aides du CNC, le Centre National du Cinéma, elles sont souvent conditionnées à une sortie en salle, c'est-à-dire que vous financez à la fois la production et vous financez les salles de cinéma, d'art et d'essai, etc. Donc souvent, ils sont obligés de sortir en salle.
Là, il pourrait y avoir peut-être un dispositif exceptionnel. Là,
le CNC est en train de réfléchir à ça. Mais ce qu'il faut aussi dire quand même, c'est que la VOD, on en parle beaucoup, mais ça reste un marché de niche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez quand même encore beaucoup de gens qui piratent les films sur Internet et qu'un distributeur, il sait très bien que s'il met son film en VOD,
il y a un petit malin
qui va l'aspirer, qui va le numériser, qui va le mettre, et voilà, qui va le mettre gratuitement sur Internet. Donc c'est vrai qu'ils sont assez réticents.
Et donc ça va se finir comment, d'après vous, Mathieu Charrier?
Va y avoir des victimes, des films qui vont sortir dans la quasi-indifférence, sur un ou deux cinémas, justement, pour toucher ces aides. C'est ce qu'on appelle les sorties techniques. C'est-à-dire vous les sortez, vous ne faites pas de promo. Ils sont sortis. C'est triste pour les gens qui les ont fabriqués. Et puis, il y a quand même plusieurs sociétés de distribution de films qui appellent à l'aide et qui disent attention, nous, on va en crever de ce coronavirus, nous aussi. Donc, la vraie inconnue et la vraie question que tout le monde se pose, c'est déjà combien de temps va durer le confinement? Alors, c'est évidemment, on se la pose tous, mais les distributeurs de cinéma aussi. Et puis, on en parlait. Est-ce que surtout les gens derrière vont avoir soit très envie de ressortir, de se retrouver dans des salles de cinéma, d'aller voir des films, de changer les idées, soit très envie de rester chez eux quand même à moitié confinés parce que la crainte qu'il y ait toujours ce virus qui circule un petit peu dans l'air. Donc voilà, toutes ces questions-là vont décider du sort de tous ces films et de ces sociétés de distribution.
Encore un secteur qui s'inquiète donc des suites du coronavirus. Merci Mathieu Charrier, on vous laisse retrouver vos proches. Au fait, vous êtes confiné avec qui vous?
Une femme, deux enfants, une maîtresse, bref, rien d'extraordinaire.
Ou une famille française classique quoi, sacré Charrier.
Europe 1.
C'est bien connu, l'émulation de deux cerveaux brillants a souvent conduit au génie. Marc Sergels, Pierre et Marie Curie.
Jackie et Michel.
Oui, surtout, mais surtout, suce à la fausse modestie, nous Eva. Et c'était pas Charrier qui dira l'inverse, Eva Roque et Mathieu Noël.
C'est un peu comme Tintin qui dialogue avec Milou finalement.
Ouais. Tant de neurones réunis et pourtant si peu de victoires dans le quiz qui opposait chaque jour Eva à l'invité et dont nous allons entendre dans un instant les meilleurs moments qui sont aussi paradoxalement souvent les pires.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue d'avancer dans les brumes ténébreuses de ces temps incertains, dans lesquels il brille comme un phare dans la nuit. Je veux bien sûr parler du cerveau d'Eva Roque. Bijou de l'ingénierie de précision niçoise, à côté duquel le supercalculateur d'IBM est une Game Boy. Un cerveau qui devient quasiment omniscient et imbattable lorsqu'il est associé à un autre cortex tout aussi impressionnant. Cortex made in Switzerland, le mien bien sûr. Comme on a encore pu le constater mardi, lorsque ces deux cerveaux ont uni leurs efforts pour répondre à une question d'une difficulté inouïe.
Alors Mathieu et Eva, écoutez bien. À votre avis, est-ce que c'est une grive musicienne ou un pigeon? Écoutez.
C'est une grive musicienne.
magicienne, ça.
Oui, je pense que c'est plutôt une dérive, non? Ouais.
Bon, alors on a reconnu le pigeon, évidemment.
Unis dans la connerie, c'est probablement ce qu'il aurait écrit sur notre tombe, Eva, si le virus nous emporte. Pourtant, jadis, c'est vous toute seule qui affrontiez l'invité sur notre légendaire questionnaire de culture générale. Et moi, je suis pour que perdurent les traditions.
Ça m'étonne
pas.
Même
en temps de guerre, souvenons-nous. Alors, Jean-Paul Rouve, sauver des piafs, c'est bien joli, c'est dans le film, mais le moment est venu de retrousser...
Mais sauver des piafs, c'est
mieux. Ça serait mieux. Hélas, on n'a pas réussi, on est arrivé trop tard. C'est le moment de retrousser vos manches, c'est l'heure du quiz face à Eva Rock. Un moment que nos invités redoutent, ils n'ont pas envie d'être pris en défaut, c'est normal, sauf que l'alternative est simple, hein. Soit vous restez les bras croisés, soit vous passez à l'offensive. Alors vous choisissez quoi ?
Offensive.
Oui.
Je choisis la solution offensive.
Oui, 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 bien. Alors c'est très bien Jean-Paul. Alors, en hommage à votre film Donnez-moi des ailes, nous avons décidé tout naturellement de faire un quiz.
Piaf.
Volatile. Effectivement, c'est un vrai faux sur les oiseaux, c'est chacun son tour, chaque bonne réponse vaut un point. Jean-Paul Rouve. Pour séduire la femelle, le minestrum argenté... Là, on va voir si vous avez bossé un peu sur le film,
sûr,
si vous êtes
sûr,
juste venu faire
bien,
le guignol. Le minestrum argenté que l'on trouve en Australie est capable d'aller jusqu'à faire le grand écart. Vrai ou faux?
Mais le minestrum argenté a plumage long ou a plumage court?
A plumage court, c'est évident.
Vrai.
C'est faux. C'était un piège. Par contre, le mannequin à cuisse jaune, pour la parade nuptiale, fait le moonwalk. Il marche en reculons. Oui. Eh oui. Ça plaît beaucoup à la femelle. Eva Rock, les pingouins et les manchots sont des oiseaux marins. Un seul des deux vole. Lequel?
Ah, oh, je sais jamais.
C'est le problème.
C'est les manchots qui volent.
Erreur, les pingouins volent.
Oh, c'est
les
pas
manchots, ils sont manchots. Faites l'imitation du manchot à retrouver sur europe1.fr par Mathieu Charrier.
Quand on est manchot, on peut pas.
Oui, mais ils ont des petites ailes quand même, les manchots.
C'est un moyen mémotechnique comme un autre.
Oui, bah, c'est j'ai compris.
Les
maintenant.
Pingouins volent, on les retrouve dans l'hémisphère nord, les manchots non, ils sont dans l'hémisphère sud. En anglais, manchot se dit penguin. Rien que pour ça, vive le Brexit. Attention, trois propositions.
C'est vraiment la partie la plus intéressante de l'émission.
Ah, c'est passionnant, je vous sens captivé. Vous répondez ensemble, qu'est-ce que le turduken? 1. C'est un oiseau préhistorique qui allaitait. 2. C'est un oiseau qui vit d'air pur et d'eau fraîche. Ou 3. C'est un plat constitué d'une dinde farcie au canard, lui-même farci d'un poulet.
Premier, moi je dirais.
Vous direz le premier, un oiseau préhistorique.
Ouais, la dinde farcie.
C'est-à-dire, vous parlez
le
de qui
dernier.
Ah, le dernier, le 3. Eh bien oui, Eva, étonnant, Eva marque un point. Le turkey, duck et chicken, ça donne turduken. C'est un plat très populaire en Louisiane. J'ai oublié de préciser que le poulet est également farci de saucisse, ce qui ne gâche rien. Attention, Eva Rock, là, ça va vous départager. C'est un quiz musical. Je vous fais écouter des chants d'oiseaux. Certains sont vrais. Certains sont imités par Johnny Rass et Jean Boucaud, chanteurs d'oiseaux professionnels. Et c'est un métier. Vous me dites à chaque fois si ce sont de vrais ou de faux oiseaux. Premier extrait.
Ah, moi, je dirais vrai.
Ouais, moi aussi, je dirais vrai comme toi.
Bonne réponse, c'est effectivement la mésange bleue. Deuxième extrait.
Non, ça me semble faux là.
C'est
oh
faux.
Les pauvres Johnny Boucaud. C'est leur métier en plus.
Oui.
C'est, vous avez raison, c'est faux, c'était Johnny et Jean Boucaud. Un troisième extrait pour voir s'ils sont bons ou nuls.
Bah non, vous venez de donner la réponse, c'est eux. C'est,
mais donc,
j'ai
c'est pas donné de réponse, c'est soit c'est les imitateurs d'oiseaux, soit
c'est des imitateurs, ça.
Alors
encore
moi je dis que c'est vrai.
Vous dites que c'est vrai? C'est gentil pour eux, mais c'est faux. C'était Johnny et Jean Boucaud.
Ouais.
Comme quoi, ce quiz nous aura permis de voir que le métier d'imitateur d'oiseaux est un métier finalement un peu con, on peut le dire, puisque ça ne marche pas, vous avez reconnu tous les sons. Donc c'est un métier qui est voué probablement à disparaître. Qui remporte le quiz?
Là on a égalité.
C'est Eva qui remporte le quiz.
Ouais. Ah merci Jean-Paul. Ben quoi?
On vérifiera au ralenti. Je demanderai le ralenti pour voir s'il n'y a pas eu un trucage. Ouais. Bravo Eva. Jean-Paul, comme vous êtes un invité en or, on a eu envie de vous gâter avec une surprise.
Vous vous laissez faire?
Non, Eva, pas cette surprise-là. Rendez-vous. Non, un invité surprise. Il est un peu à la bourre.
Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai été retenu à Paris par une copine. Tueuse, enfin une histoire.
Oui, mais ça y est, il est en ligne avec nous. Allez-vous le reconnaître? Les indices que j'ai distillés sont minces. Allô?
Allô?
Ah, Michel.
Ah, Michel, je crois que vous êtes démasqué, Michel Blanc. Merci d'être en ligne avec nous aujourd'hui. C'est simple, chacun d'entre vous a joué sous la direction de l'autre et vous avez joué ensemble dans Aladdin. Vous
oui.
êtes, on peut le dire, plus que des collègues, des amis tous les deux.
Ah oui, Michel, oui, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. C'est aussi un très bon collègue d'apéritif.
Ah. Ah, c'est-à-dire, ah, dites-nous en plus.
J'avais Michel. balancé moi-même à tout.
Je te connais. Avec Michel, quand on se voit.
Bon, là, tu vois, c'est l'heure de la première pierre. Comme toi, c'est normal, tout va bien jusque-là. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu voles avec des oies maintenant.
Eh ben, écoute, oui, il faudra que je te parle de tout ça. D'ailleurs, j'en ai récupéré à la maison quelques-unes et elles commencent à me faire chier. Donc, si tu pouvais en récupérer, ça me ferait plaisir.
Ben là, en ce moment, moi-même, j'avais un projet, mais que j'arrive pas à monter avec des porcs. Et le financement est bloqué par le syndicat de la charcuterie. Et je suis très embêté parce que je sais pas quoi faire des bêtes.
Ça va finir à l'apéro, tout ça, je vais vous dire.
Voilà, et avec Michel, c'est ça, c'est rire tout le temps.
Europe 1.
Avant de vous lancer, Eva, telle une bouée de sauvetage, j'aurais une pensée émue pour vous, parents en télétravail, qui découvrez jour après jour la difficulté du métier d'enseignant. Car oui, désormais, c'est vous qui faites la classe à vos enfants, et ça vous prend plus de temps que vous l'imaginiez, même quand ils sont encore en CM1.
Pierre remplit la baignoire un tiers fois moins que Jean, qui lui l'avait rempli deux fois plus que Jacques. C'est complètement idiot, hein, parce que dans la vie, tu fais jamais ça. Hein. Non, d'abord, on fait le problème. Mais Jacques a utilisé un tiers de l'eau déjà utilisée par Jean. En plus, ils sont dégueulasses, ils se lavent dans le même bain. Complètement.
Tu comprends pas?
Oh, si, je comprends, si.
Papa n'a pas compris quelque chose, allons donc. Bref, pour échapper à ce cauchemar, Eva vous propose de mettre les gosses devant la télé. En temps normal, les associations de protection de l'enfance nous tomberaient dessus, mais là, vu les circonstances, on a une dérogation. Quel programme, pour quelle tranche d'âge, Eva Rock vous livre sa sélection juste après les Beatles, Octopus Garden sur Europe.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see. Storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be this garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Octopus Garden, c'était les Beatles sur Europe 1. Les Beatles dont nous reparlerons tout à l'heure avec Jean-Philippe Ballas.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Bébé qui couine, enfant qui hurle, ado qui râle, vous êtes à bout. Vous n'en pouvez plus de jouer aux gendarmes. Qui plus est pour vous heurter à un mur d'insolence.
Lola !
Alors on commence par quoi, les pétards ou les capotes?
Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi t'en fumes tous les soirs dans ta chambre quand même.
Voilà. La mesure est à son comble, comme disait l'autre.
Je vous demande de vous arrêter.
Et si vous vous offriez une parenthèse de quiétude pour bosser ou simplement vous détendre, Eva Rock peut vous arranger ça en lobotomisant vos enfants. C'est une opération sans risque, très légère, qui consiste à les foutre devant la télé avec des chipsters belins. Mais attention, évidemment, pas devant n'importe quoi.
Eva. Non, mais sans les chipsters, vous plaisantez. Surtout que on va commencer avec les plus petits, parce que vous savez, il y a une chose qui fonctionne particulièrement bien avec les tout petits, c'est la musique. On a tous une comptine qui nous a marqué dans notre vie. Je sais pas, il y a une chanson que vous chantiez, vous, régulièrement, Mathieu, quand vous étiez petit.
Ah ouais, c'est Il était un petit
homme. Par exemple.
Pirouette, voilà. Cacahuète, oui, c'est ça.
Ouais, moi, avec mes sœurs, j'adorais chanter cette chanson.
Sur une toile d'araignée.
C'est génial, hein, moi j'adore ces chansons. Et bien sur la chaîne YouTube de la maison.
Je sens nos neurones fondre.
Mais oui, mais
les uns après les autres.
Ouais, mais imaginez que vous avez votre petit garçon, il est un peu plus grand que ça, mais pour les 4-5 ans, c'est quand même des chansons qui sont très sympas à apprendre. Et j'ai trouvé une chaîne, c'est la chaîne YouTube de la maison d'édition Didier Jeunesse, qui vous propose une collection de vidéos gratuites, donc pour vous et pour les plus petits pioupiou, des comptines classiques comme Une souris verte par exemple, des comptines en anglais et d'autres en lingala. Alors le lingala, direction le Congo pour cette berceuse intitulée Olélé Moliba Makassi.
Olélé, Olélé Moliba Makassi. Olélé, Olélé Moliba Makassi.
Et alors ce qui est génial, c'est que les paroles, elles sont sous-titrées en français. Et comme les chansons, elles sont quand même construites sur la répétition, vous l'entendez, ben avec vos enfants, vous allez apprendre des mots, notamment dans des langues africaines notamment, mais aussi des langues d'Amérique du Sud. Alors d'autres vidéos sont plus axées sur l'apprentissage des couleurs ou encore celui des chiffres. C'est très très bien fait, c'est joliment illustré à chaque fois. Les conteuses et les conteurs sont formidables. Et alors avec le nombre de pastilles qui sont disponibles donc sur cette chaîne YouTube, vous avez quelques heures de tranquillité devant vous. Sauf que, si je suis vraiment totalement honnête, c'est quand mieux si vous les écoutez, si vous regardez ça avec vos enfants. Mais bon, dites-vous que ça vous permettra de retomber un peu en enfance l'espace d'un
et
moment.
Et non pas en absinthe. Parce qu'on sent que vous avez envie de retomber en absinthe pour effectivement alléger un petit peu votre angoisse.
Voilà.
Mais non.
Et c'est la chaîne YouTube de la maison d'édition Didier Jeunesse. Vous tapez Didier Jeunesse sur YouTube et vous tombez dessus, tout simplement.
Parents parés pour les plus petits donc, et on fait quoi des ados pendant ce temps?
Eh bien une série OCS que beaucoup connaissent déjà, c'est une série à partager d'ailleurs avec les adultes, ça s'appelle Euphoria, c'est l'histoire de Roux, c'est l'héroïne et c'est la voix off de cette fiction. Alors au départ c'est une enfant très spéciale, elle est blindée de TOC dès l'âge de 5-6 ans, et la suite c'est elle qui la raconte.
Je me souviens pas trop de ma vie entre 8 et 12 ans, juste que le monde allait vite et que mon cerveau allait lentement.
Ok, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ceci signifie?
Et à l'époque, si jamais je me mettais à me concentrer sur ma respiration, je pouvais mourir.
Alors c'est une fillette qui trimballe vraiment un mal-être et qui va sombrer rapidement dans la toxicomanie. Elle va essayer toutes les drogues, elle les essaye toujours. Elle finit par se retrouver à l'hôpital d'ailleurs. Cure de désintox pendant les vacances d'été avant de retrouver le chemin du lycée où elle va rencontrer Jules, c'est une ado trans. Alors on va suivre les pérégrinations de ces deux ados parmi les autres entre amour et désamour, drogue et alcool, secret et quête d'identité, toutes les problématiques qui sont liées à l'adolescence. Donc il n'y a pas de surprise sur ce plan-là par rapport à toutes les séries pour ados qu'on a déjà vues. Mais Euphoria, c'est et plus que cela, il y a des personnages qui sont plus complexes que dans les autres séries pour ados. Et puis il y a surtout une esthétique. La mise en scène et la photo sont très très réussies. Cerise sur le gâteau, la bande originale qui habille parfaitement les 8 épisodes avec des morceaux de Beyoncé, Billie Eilish ou encore Big Data. Et puis pour finir, Zendaya qui interprète Roux est absolument remarquable. Elle est âgée de 23 ans. Alors elle est déjà très connue, hein, outre-Atlantique. Mannequin à ses débuts, elle est passée par l'école des séries Disney Channel, puis par le cinéma avec un rôle notamment dans Spider-Man Homecoming. Avant d'obtenir donc le rôle principal de cette série Euphoria qui est plébiscitée par les ados, c'est à voir sur OCS. Une saison pour l'instant est disponible, la deuxième est attendue cette année s'il n'y a pas de retard dans les productions Netflix, ce qui risque de se passer quand même. Voilà.
Les enfants sont émerveillés, les ados sont lobotomisés. Mission accomplie. Bravo Eva Rock.
Europe 1.
Une deuxième phase de l'équipée sauvage vous attend. Plus d'infos, plus de conseils, plus de recettes de cuisine, plus d'Eva Rock. Et même, cerise sur le gâteau aujourd'hui, des cours de sport délivrés en direct, en ligne, par les joueurs du LOSC.
Très très bien foutu.
Les cours,
je
Eva,
sais pas,
les
je sais
joueurs
pas.
Du LOSC. Enfin, aussi, mais bref, non, mais c'est pas la question. Ne nous en mêlons pas les pensées, nos auditeurs auront compris. D'ailleurs, nos auditeurs ont l'habitude de me comprendre, même quand je dis n'importe quoi, ce qui arrive souvent. Mélanie Douté passe l'après-midi sur TF. À tout de suite sur Europe 1.